Vous écoutez bien Radio Canus, 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, Radio Canus délocalisée, Radio Canus hors les murs, donc dans le troisième salon des éditions libertaires, avec toute une série d'interventions, avec des participants à ce salon, et pour cette séquence d'environ une demi-heure, là, elle sera consacrée à Louis Lecoin, plus exactement à la prestation de cet après-midi qui est la projection d'un film qui n'est pas tout récent, mais qui est tellement important, Le cours d'une vie de Louis Lecoin, un film de 1966, donc qui sera projeté dans la salle du salon à 15h15, entre 15h15 et 16h45. Alors pour évoquer ce film, mais aussi Louis Lecoin et puis l'UPF, avec nous dans ce studio, donc Pascal Dereurd, à qui ben, je vais lui poser déjà la question de ce film. Je suppose que tu l'as vu ou revu il n'y a pas longtemps, avant cette diffusion. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce film? C'est un simple documentaire?
C'est un documentaire... L'intérêt du film sur Lecoin, je dirais que c'est plus qu'un documentaire au sens où il ne cerne pas le bonhomme uniquement autour de son action militante, de son action pacifiste ou libertaire, mais vraiment autour aussi de, et avant tout, de l'être humain. On voit aussi, sur son enfance, il y a des moments de très grande pudeur. Je pense que la grandeur des cinéastes dans ce documentaire a été d'arriver à faire que Lecoin livre probablement des choses alors qu'il était devant une caméra, puisque c'est 5 ans avant sa mort, il est mort en 1971. Ils ont réussi à capter pas seulement la force du bonhomme, mais aussi les blessures, les failles, qui sont celles, sont les failles dans lesquelles se sont enracinées ce qui a motivé et mobilisé Lecoin pendant toute sa vie, c'est-à-dire la défense de la vie. Et la lutte contre ce qui pour lui était...
Contre
la guerre, mais j'aime bien dire pour, parce que je pense que Lecoin était plus un homme pour qu'un homme contre. Il s'est battu contre des choses parce qu'elles mettaient en danger ce pour quoi il était. La liberté, le respect des autres, dans une société qui était extrêmement totalitaire, au sens où on est encore, il naît à la fin du 19e siècle, on est dans une société qui a la volonté, pas seulement de gérer la vie publique des gens, mais aussi de gérer leur vie privée. Donc vraiment une société où la liberté individuelle, les choix de conscience sont pas du tout d'actualité. Et Lecoin est avant tout quelqu'un qui va systématiquement toujours s'appuyer sur sa conscience et opposer sa conscience à la société totalitaire qui va souvent se présenter devant lui sous la forme de l'autorité militaire.
Alors je propose qu'on balaye un petit peu la vie de Lecoin, ça, en 10 minutes, ça va être un peu court, mais enfin les gens pourront voir le film. Puis il y a aussi un certain nombre de livres, on en parlera
oui,
après,
oui.
De Lecoin d'ailleurs. Lecoin bien oublié aujourd'hui, mais qui est un homme qui quand même a commencé, est né en 88, 1800, et a commencé à militer au début des années 1900. Alors, je te laisse nous faire un récit raccourci de sa vie, puis peut-être beaucoup aussi de ses emprisonnements et de ses arrestations, puisqu'il a passé 12 ans de sa vie en tôle, quand même, en cumulé,
il a passé 12 ans de sa vie en tôle, ça c'est certain. C'est quelqu'un qui naît à Saint-Amand-Montrond, dans le Cher. C'est quelqu'un qui est donc qui vient pas d'un milieu rural au sens où sa famille n'est pas rurale, mais qui vient d'un milieu voilà où le c'est quand même le monde rural dans lequel il est. C'est quelque chose qui va être important parce que il va puiser aussi. Il y avait aussi un amour de la nature, un amour des grands espaces, et il va aussi puiser dans ses racines à Saint-Amand-Montrond et dans l'amour qu'il reçoit de sa mère. Il est issu d'une famille nombreuse. Il va connaître la misère. Hein. C'est une famille. Je pourrais plus dire le nombre d'enfants exactement, mais c'est vraiment la famille. Il y avait au moins 7 enfants. Oui, c'est ça. Et ils vivent dans deux pièces. Hein. Il y a un rez-de-chaussée, puis un étage au-dessus. Enfin, il y a des. C'est vraiment là. On est dans la très grande misère hein, à la fin du 19e. Hein. Même au niveau du prolétariat, tout le prolétariat ne vit pas dans forcément. Lecoin vient vraiment de la grande misère. Et en même temps, j'ai envie de dire de la grande tendresse, parce que c'est un enfant qui indéniablement a été aimé de ses parents. et qui va puiser dans ses racines une force qui va le soutenir tout au long de ses luttes. Et il va lui en falloir parce que effectivement sur l'ensemble et très tôt sur l'ensemble de sa vie, il va faire 12 ans de prison, 12 ans de prison où il va on est seul en prison. Tout particulièrement quand on fait partie en plus dans les emprisonnés de minorités emprisonnées. Donc ça commence très tôt, ça commence en 1907 avec une arrestation totalement arbitraire à la sortie d'une manifestation contre la présence française au Maroc. C'est le 19e siècle, hein, c'est vraiment le point culminant de l'apologie de la colonisation. Donc on organise aussi des défilés, des parades, hein, avec l'armée en tête, bien évidemment, avec les troupes coloniales, etc. Et il est simplement arrêté parce qu'en fait il y a un peu des heurts avec la police. Il n'y participe pas, mais il fait partie des gens qui sont alpagués par des gendarmes et qui se font matraquer. Et il a des tracts anarchistes sur lui qu'il a récupéré la veille dans un meeting. Donc forcément anarchiste, forcément immédiatement accusé de coups et blessures et injures, etc. Et il va être condamné à 6 mois de prison. Ça va être que le début d'un ensemble de peines, dont l'une des plus longues va être pendant la Première Guerre mondiale, puisque dès 1912, il a arrêté et emprisonné 5 ans pour diffusion d'un tract antimilitariste. Donc on voit bien que dès le départ, son angle de contestation, c'est vraiment l'antimilitarisme. L'autorité, pour le coin, est vraiment incarnée dans ce... Pour lui, l'armée est vraiment ce qui incarne l'autoritarisme dans ce qu'il a de plus obséquieux, de plus destructeur et de annihilant de l'individu, des libertés et surtout de l'espérance que lui met dans l'homme, dans l'être humain, à pouvoir vivre autrement et à pouvoir créer et mettre en place des sociétés différentes qui seront plus gouvernées par la violence dans les relations entre les gens, entre les pays, etc. Il sera porteur de ça dès le parfois, c'est vraiment quelque chose qui naît très tôt. Donc il va faire toute la Première Guerre mondiale du coup en prison, dire là-dessus, c'est que c'est intéressant, c'est quand on nous présente des guerres, y compris comme la guerre de 14-18, dont on va se taper probablement toute une série de commémorations aberrantes. On a commencé à arrêter les antimilitaristes, les pacifistes et quelques personnes qu'on pouvait qualifier de non-violentes à l'époque, dès 1912. La guerre, c'est 1914. Donc en 1912, on commence déjà à s'en prendre à ceux qui pourraient tenir un discours différent. Ça veut bien dire que les guerres, elles tombent pas comme ça. Elles sont voulues, elles sont préparées. Et en fait, elles sont mises en place bien avant la déclaration de guerre. Donc lui, en 1917, il sort de ses 5 ans de prison. La guerre est pas finie. On lui propose l'uniforme. Il le refuse à nouveau. Il est de nouveau condamné à autant d'années de prison, plus 18 mois, pour le fameux tract. On lui remet encore dans les pattes les tracts antimilitaristes. Et on lui recolle 18 mois de prison de plus. Bon, il les fera pas. Il va être libéré en 1920. Mais ça va continuer comme ça. Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il est plus mobilisable et qu'il pourrait partir en suivant l'exode en zone libre, il préfère rester, il diffuse un tract, et pour ce tract, il va être de nouveau condamné, et là, il va être envoyé au bagne en Algérie. Donc, voilà, ça va être les grandes arrestations qui vont représenter les longues peines qui arrivent à 12 ans, et puis il y a plein de petites périodes d'arrestation avec des peines plus courtes de quelques mois.
Oui, puis il faut parler de ses luttes aussi, parce qu'il a jamais arrêté, quoi. Il s'est battu pour la sauvegarde de Camille Berneri en 1928, un anarchiste italien. Il s'est battu en 28 aussi pour Sacco et Vanzetti. Hein. Il a mobilisé des centaines de milliers de personnes dans la rue. Aujourd'hui, tout ça, c'est lointain, on a oublié.
Ah, il est à l'origine de tout en France, de toute la mobilisation à l'époque extrêmement importante pour la libération de Sacco et Vanzetti.
Il s'est intéressé au sauvetage de Durruti, Ascaso et Jovert. Là, je crois qu'il a échoué. Ils ont été exécutés.
Il a réussi, il a fait sauver les trois. C'est-à-dire qu'il a réussi à empêcher l'extradition en Espagne, où ils étaient accusés d'une tentative d'assassinat contre le roi et où ils auraient été condamnés à mort. Donc il a réussi à obtenir qu'ils ne soient pas extradés, donc condamnés. Ce qui fait que d'ailleurs les trois sont morts pendant la guerre d'Espagne. Ascaso en menant l'assaut contre une réserve de munitions, Durruti, on le sait, en défendant Madrid.
Donc on voit vraiment un individu qui n'a pas arrêté une seconde d'œuvrer pour la paix et contre le militarisme. Alors, il faut arriver peut-être.
Oui, vas-y. Oui, il a, oui, donc on a ces grandes étapes qui sont des étapes qui sont pas forcément liées au pacifisme. On le voit avec la guerre d'Espagne. Hein, soyons honnêtes, hein, Le Coin au moment de la guerre d'Espagne a quand même une parenthèse dans son pacifisme, c'est que par fidélité et loyauté, c'est quelqu'un d'extrêmement tout au long de sa vie qui va montrer une extrême fidélité à ses amis et aux causes qu'il défend. Et donc, il va envoyer 4 à 5 camions par jour avec le Comité pour l'Espagne libre, qui envoie officiellement des médicaments et des couvertures en Espagne pour les républicains, mais essentiellement pour les colonnes anarchistes, qui manquent de tout. On sait très bien que sous les couvertures, il y avait aussi des armes. Donc, voilà, il y a quand même un moment donné où Le Coin a fourni des armes, ce qui, je trouve, est intéressant, parce que ça montre un personnage qui est avant tout un être humain.
Il a toujours dit qu'il était pacifiste, mais pas non-violent, quoi.
Alors, il disait qu'il était non-violent à 98% et qu'il se laissait 2% de libre-arbitre. Bah, c'est quelqu'un qui est avant tout, qui est pas dogmatique, en fait. C'est pas quelqu'un qui, c'est pas un croyant. Enfin, il a foi en l'homme, il a foi, s'il a une croyance, c'est dans celle-là que l'homme peut vivre différemment et construire ce qu'il rêve, les sociétés différentes. Et la dernière lutte, ça va être celle qui commence en 58.
La guerre d'Algérie, donc.
Il y a aussi la guerre d'Algérie, mais de toute façon, il va être s'opposer à toutes les guerres, pas seulement les guerres dans lesquelles la France est impliquée. Il va aussi faire partie des gens, bien sûr, qui s'opposent aux guerres, les guerres qui se passaient dans le monde menées par d'autres pays.
Dénonciation de la torture.
Enfin, voilà. Donc il fait bien évidemment la guerre d'Algérie, il va s'y opposer aussi. Mais il va pas avoir de, on pourrait dire par rapport, va pas y avoir par exemple d'épisodes comme l'édition du Tract qu'il édite quasiment, il rédige, il l'imprime avec ses deniers, tout ça avant la Seconde Guerre mondiale. On est plus dans un mouvement qui est aussi plus général à ce moment-là. Il y a comme une opposition à la guerre d'Algérie à un moment donné, contrairement à Sacco et Vanzetti par exemple, ou la Seconde Guerre mondiale, où il y a vraiment des mouvements dont il est à l'origine. Je pense que la chose qu'a démontré Le Coin, c'est qu'un individu seul. Le Coin, en fait, à aucun moment donné, s'est posé la question de savoir s'il allait être suivi, s'il allait trouver le soutien d'organisation, ses camarades, tout ça. Il y avait quelque chose qu'il ne pouvait plus supporter, qui pour lui était inacceptable, et il se mettait en marche. Lui, il commençait à trouver comment je fais. Je crée une revue, j'imprime un tract, tout ça. Donc des moyens, on voit qui sont très simples au départ. Rédiger, imprimer un tract, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. C'est rien d'extraordinaire. C'est pas un militant extraordinaire au sens où il fait rien que d'autres militants n'ont pas fait. Et lui, à un moment donné, pour porter ce moyen qu'il a trouvé de faire entendre une voix dissonante, c'est-à-dire de faire entendre sa conscience, toujours pareil, il va aller voir les gens dont il pense pouvoir tirer un soutien. C'est-à-dire pour diffuser un travail, pour trouver de l'argent pour l'imprimer, ou pour une revue, comme il va faire pour les revues, la revue Liberté, la revue Défense de l'Homme. Et là, il n'hésite pas non plus. C'est pas du tout quelqu'un, par exemple, par rapport à ce qu'il fait, on pourrait croire orgueilleux, tout ça, parce qu'il va pas du tout hésiter non plus à aller voir des gens de tous les bords. Ce qui l'importe, c'est la cause qu'il défend, et surtout derrière, il y a toujours des êtres humains à aider, à sauver. Quand il commence ses objecteurs de conscience, c'est qu'il lui est insupportable de, en fait, quelque part, de vivre en sachant que dans son pays, à quelques kilomètres de lui, il y a des êtres humains qui sont en prison, pour avoir commis un seul crime, celui de refuser de porter des armes, d'apprendre à s'en servir et donc d'apprendre à tirer sur son prochain. C'est lui insupportable, il faut qu'il fasse quelque chose. Et donc, pour sortir ces hommes de prison, il va aller voir des gens, y compris pour les objecteurs de conscience, il va aller taper, il connaît quelqu'un au Figaro, il va aller taper à la porte de cette personne pour voir s'il peut obtenir que le Figaro passe un article, de l'argent de ce type, etc. Donc, il met de côté jamais sa dignité, mais il met de côté tout ce qui est un obstacle à réussir à faire sortir ces types de prison. Et quels que soient ces types, que ce soit des anards, des témoins de Jéhovah, parce qu'en réalité, au moment où il commence la campagne en 58 pour le statut des objecteurs de conscience, il y a beaucoup plus de témoins de Jéhovah en prison que d'anarchistes ou de pacifistes ou d'antimilitaristes ou tout ça. C'est une poignée. La grande majorité sont des témoins de Jéhovah, puisque les témoins de Jéhovah s'insoumettent. Ils s'en foutent. C'est pas le sujet pour lui. Pour le sujet, c'est qu'un homme ne peut pas être emprisonné en règle générale. Pour Le Coin, qui a fait beaucoup de prison, il arbore la prison. Mais encore moins pour quelqu'un qui n'a fait de mal à personne, qui n'a commis aucun crime, dont le seul crime est un crime qui est vraiment construit par, même pas par une loi, mais par une pensée morale de la société. C'est qu'on doit servir, et que dès lors où on ne sert pas, où on désobéit, où on s'insoumet, alors on est un criminel. Pour Le Coin, c'est aberrant. pas pour le coin. Et voilà, donc en 58, donc il engage cette lutte qui va mener à une de ses plus grandes victoires,
qui va être quand même une épreuve en 62 à 74 ans. Il s'offre 3 semaines de grève de la faim.
Oui, 21 jours, oui. 21 jours de
Gaulle, se disant que la mort de Lecoing dans ces conditions, ça ferait quand même un peu tâche, finit par négocier quelque chose.
Oui, alors, faut dire quand même, je pense que c'est quand même important de dire que De Gaulle n'était pas le plus hostile au statut des objecteurs. Le plus hostile, c'était Debré. Parce que, en fait, De Gaulle était quelqu'un qui, d'abord, avait de l'admiration pour Lecoing. Lecoing a forcé l'admiration même de ses détracteurs, de ceux qui étaient atteignables par l'humanité. De Gaulle, il n'y aurait pas eu la guerre d'Algérie. Lecoing pense qu'il aurait obtenu le statut plus tôt qu'en 62. Même si la loi a été promulguée en 63, il l'a obtenu en 62 par cette grève de la faim de 21 jours, qui à 74 ans, c'est quelque chose de terrible. Quand il a arrêté sa grève de la faim parce que De Gaulle a fait téléphoner par son secrétariat personnel pour dire « je vais donner la loi à Lecoing », il ne dit pas « je vais donner la loi aux objecteurs », ça, il dit « je vais donner la loi à Lecoing ». Il a gagné. Donc, les copains du comité de soutien à Louis Lecoing le préviennent. Et quand il a vraiment les garanties, il accepte de mettre fin à la grève de la faim. Les médecins de l'hôpital où il était n'étaient pas sûrs de le sauver. C'est qu'il était déjà passé à un stade où, à son âge, il pouvait y rester. Donc c'était vraiment... on voit bien, à 74 ans, il y a des choses qu'on... Il a fait des grèves de la faim avant. Très vite, il a utilisé la grève de la faim comme moyen, y compris en prison, par exemple, pour obtenir de meilleurs traitements. Souvent, pas pour lui, pour d'autres prisonniers, parce qu'il avait assisté à des scènes, des prisonniers qui se faisaient battre, ou la nourriture infecte. Donc, grève de la faim pour obtenir, et à chaque fois, il obtenait gain de cause. Y compris au début du XXe siècle, y compris dans les prisons. C'est-à-dire qu'il obtient des directeurs d'avoir une meilleure alimentation, qu'on les laisse sortir, qu'on arrête des gens qui étaient au mitard, qu'on les fasse sortir, etc. Il utilise très souvent la grève de la faim. Et celle-là sera l'ultime. Mais elle aurait vraiment pu être la dernière, au sens où vraiment les médecins disaient à 3 jours près, de toute façon, il ne s'en sortait pas. Ça aurait duré 3 jours de plus, Lecoing mourrait sur son lit d'hôpital.
Donc il a survécu 5 ans après cet épisode qui est le plus connu en le concernant, mais on a déjà évoqué pas mal de choses. Bien, je propose qu'on écoute une chanson, la seule à ma connaissance qui est vraiment un hommage à Louis Lecoing, mais c'est pas un hommage de hasard, c'est Roland Hainaut qui l'a écrite de mon rond ou du même coin. Elle est chantée par Elisabeth, elle est introuvable en enregistrement aujourd'hui, mais on vous la propose. Donc c'est Petit Louis.
Si vous en tuez 2-3 millions, on vous refile une décoration. Condamné aux félicités, c'est une question de quantité. Toi petit Louis, t'es pas dans le coup, t'as pas voulu prendre les armes, t'as pas voulu en tuer du tout. Ils t'ont mis tous en cabane. Le sort a de ses ironies. Un boulevard ou une avenue, on lui donne généralement le nom des tueurs les plus connus. Un colonel, un général dont le nom s'enfond le sable chaud. Ça vous remonte le moral le matin pour partir au boulot. Mais je vois avec mélancolie qui a jamais le nom de Petit Louis. Le sera de ses ironies pour petit Louis. Revient aux militaires, aux soudards et aux traînes rapières. La panoplie de l'assassin s'épanouit dans les magasins. Du côté de Saint-Amand-Montrond, ton nom ne dit plus rien à personne. Le maire s'appelle Maurice Papon, c'est le matraqueur de Charonne. Moi je redis le nom de Petit Louis en contrepoint à la connerie. De ses ironies pour petit
Donc, hommage à Louis Lecoin, Petit Louis, interprété par Elisabeth. Lecoin et l'UPF, il y a eu beaucoup de relations, beaucoup de travail en commun, mais Lecoin n'est pas l'UPF et l'UPF n'est pas Lecoin pour autant. Union pacifiste de France, donc une association, organisation militante dont tu fais partie, Pascal, et sur laquelle tu vas nous en dire plus.
Oui, alors l'Union pacifiste de France est fondée en 1961. Le journal Union pacifiste va être fondé en 66. C'est bien sûr quand même lié à Lecoin et à la dernière campagne qu'il a lancée un peu de temps avant de mourir, en 67. Il lance la campagne pour le désarmement unilatéral, ce concept du désarmement unilatéral qui repose sur le fait de dire, on nous tient toujours le discours que la paix ne sera possible à un niveau durable ou mondial que quand tout le monde se sera entendu pour désarmer, et que donc, quelque part, c'est impossible parce qu'il faudrait que tout le monde soit d'accord pour désarmer en même temps, le même jour, à telle heure, et que là, ce jour-là, on aura peut-être la paix. Donc Lecoin dit, c'est une aberration. Ça n'aura aucune chance d'arriver jamais. La chose que l'on doit faire, c'est pas que l'on peut faire, c'est que l'on doit faire, c'est de donner l'exemple et de commencer, nous, par désarmer. C'est-à-dire refuser d'être soi-même une menace pour les autres. Donc il va lancer en 67 la campagne pour le désarmement unilatéral de la France, c'est-à-dire l'abolition de l'armée française, la suppression et la disparition de toute force armée, et bien évidemment de toute fabrication d'armes et de toute vente d'armes. C'est une campagne qu'il n'aura pas le temps, sachant que sur la fin de sa vie, c'était un monsieur qui était devenu presque aveugle, qui bien sûr était fatigué. Et en plus, les grèves de la faim, la toute première qu'il avait menée en 1912, l'avait laissé très fragile au niveau de l'organisme, puisque en fait, il s'était réalimenté beaucoup trop vite et avec de la nourriture de prison. Alors, vous imaginez ce que ça donnait. Donc, en 71, c'est une campagne qui n'a pas beaucoup avancé, et c'est l'Union pacifiste de France qui va prendre le relais en défendant le désarmement unilatéral et bien évidemment en tout premier lieu la défense des objecteurs de conscience, des déserteurs, des insoumis, des réfractaires, pas seulement en France, partout dans le monde. C'est une organisation qui a choisi d'adhérer à l'International des résistants à la guerre, l'IRG, et avec le MIR, le Mouvement international pour la réconciliation, les deux plus anciennes organisations antimilitaristes qui se sont fondées dans les années 20 avec le plus jamais ça de la Première Guerre mondiale, fondées que par des gens qui avaient connu la guerre, les tranchées, et qui voulaient que le ras-le-bol et le plus jamais ça des peuples et des survivants se concrétisent dans une lutte sociale collective au niveau planétaire. Pour dire, ça va pas être un simple slogan. Oui, nous voulons vraiment que plus jamais aucune génération ne connaisse le sacrifice de nos 20 ans dans les tranchées. Donc l'Union pacifiste a déjà dans un premier temps lutté pour améliorer le statut des objecteurs de conscience qu'avait obtenu Lecoin, qui était quand même très arbitraire, donc le faire évoluer. S'est battu contre la conscription. Et cette conscription qui a marqué un peu un temps mort, parce que finalement aujourd'hui on pourrait dire il y a plus d'objecteurs de conscience puisqu'il y a plus de service militaire, donc il y a plus d'opposition, etc. Mais en réalité, d'abord, des objecteurs de conscience, il y en a partout dans le monde, à commencer dans les dictatures, dans les états militaires. Il y a des déserteurs et des réfractaires face à toutes les guerres. On le voit avec les refusniks israéliens, on le voit avec les soldats qui reviennent d'Afghanistan, d'Irak, dans tous les pays qui participent et qui ne veulent pas y retourner. Donc tous ces gens-là, on leur apporte le soutien aussi à travers le Bureau européen pour l'objection de conscience, dont le secrétaire de l'Union pacifiste de France, Maurice Montet, est cofondateur et vice-président. Donc, qui porte, ce qu'il fait, c'est par exemple le BEOC, qui a obtenu qu'on ne peut faire partie de la communauté européenne sans proposer une alternative au service militaire aux ressortissants d'un pays. On ne peut pas être membre de l'Union européenne si on n'a pas un statut d'objecteur de conscience. Et si on ne l'a pas, on peut rentrer, mais sous la condition de créer une alternative au service militaire.
Et aujourd'hui, l'UPF donc continue cette action dans cet esprit-là.
Alors, l'UPF continue bien sûr de le. Soyons réalistes, le poids de l'UPF est un poids aujourd'hui. J'ai envie de dire de le rôle de l'UPF, c'est un rôle de mémoire. Aujourd'hui, nous avons trop peu de militants, trop peu d'activistes pour mener des actions de terrain de grande envergure. Notre rôle. Celui dans lequel on dépense une bonne partie de notre temps et notre énergie, et de faire entendre cette voix dissonante, cette analyse dissonante de ce discours militariste qui est omniprésent, qui est redevenu extrêmement présent. Moi, je discutais récemment avec des militants syndicalistes, des militants, des réfractaires à l'armée qui vont sur la soixantaine, et qui disaient, mais c'est incroyable comment ces 10, 15 dernières années, l'armée est redevenue, a redoré son blason, est redevenu une espèce de fierté nationale qui me disait, mais nous, t'es post 68 tard, on a connu les années 70 tout, enfin l'armée, t'avais honte de faire partie de l'armée, et aujourd'hui tu peux en être fier de nouveau, et qui sont catastrophés par ça.
Donc, l'UPF a une conscience morale aussi, peut-être, non ? Au niveau de du pays.
Alors, l'Union pacifiste a une conscience morale, comme tu veux. Oui,
c'est une voix dans les.
C'est une voix. L'Union pacifiste est une organisation qui ne s'est jamais parjurée, qui ne s'est jamais non plus, parce que dans l'histoire du pacifisme français, Dieu sait que malheureusement le pacifisme français et l'antimilitarisme français ont beaucoup souffert de compromissions avec certains partis politiques qui ont fait que on regardait quand même plus dans certaines directions que dans d'autres. L'Union pacifiste n'a jamais fait ça. L'Union pacifiste est indépendant de toute religion, de tout parti politique, de toute organisation politique. Sa volonté, c'est de dire la France peut donner l'exemple en désarmant, en étant le premier pays extrêmement militarisé, on est un des pays les plus militarisés au monde, en montrant si un pays comme la France désarmait, ça ferait forcément boule de neige parce que ça serait incontournable. Le monde aurait forcément les yeux rivés sur le renoncement à la force armée par un pays tel que la France aujourd'hui dans le jeu qu'elle joue avec les autres nations. Et pour ça, les gens qui nous ont précédés ont gardé le cap et se sont pas laissés ni manipuler ni berner. Et c'est vrai qu'il y a un respect. Que moi je dis ça parce que je l'ai découvert à l'occasion de salons, à l'occasion de manifestations, tout ça, y compris les gens qui ne sont pas d'accord, on se respecte parce que c'est l'image qu'a l'Union pacifiste, c'est d'être des gens qui sont restés entre guillemets, qui sont des purs du pacifisme.
Et si on veut militer à l'Union pacifiste de France à Lyon par exemple, dans la région, on fait quoi ? On s'adresse où ? On regarde le site internet ?
Alors oui, il y a la section du Rhône, ce que j'aime pas ce nom de section. Il y a le groupe du Rhône, pardon. Ce sera plus sympa. Il y a le groupe du Rhône. Alors, je crois qu'en fait, toi, tu as les... Moi, j'ai jamais réussi à les retenir de tête. Donc, l'Union pacifiste de France a son siège à Paris, boulevard Vincent Auriol, au 66. Il y a aussi un site internet sur lequel on a toutes les informations. En tapant tout simplement Union pacifiste de France sur internet, vous allez tomber d'une part sur un très bon média qui a été fait par une copine, qui est extrêmement documenté et qui a été très très bien fait, c'est quelqu'un d'extérieur, justement. justement à l'UP, qui avaient rencontré des gens et qui a fait qui à partir de ça a fait une sorte d'historique de l'Union pacifiste, donc de façon très objective et très belle. Et puis vous pouvez avoir aussi les coordonnées via sur internet par Radio Libertaire, puisque l'Union pacifiste a une émission tous les jeudis soirs de 18h à 19h30 qui s'appelle Civis Pacem, si tu veux la paix, qui passe sur Radio Libertaire et qui est donc écoutable sur internet.
En attendant d'avoir une émission sur Canu.
En attendant peut-être d'avoir une émission sur Radio Canu. Le journal, on peut se le procurer par abonnement, donc il faut s'adresser à il faut écrire à l'Union pacifiste, voilà.
Voilà, donc je te remercie, et puis je rappelle donc cet après-midi, 15h15, la projection du cours d'une vie, ce film d'une heure sur la vie et l'œuvre de Le Coin, un film de Jean Desvilles et André Dary Béaud. Merci, eh bien, pause musicale et puis prochaine séquence dans les minutes qui viennent.
Salut.
Phosphore blanc pour mes peines, de la honte sur mes gènes, mis en exploité sans gêne. Toutes nos ressources taries à échelle surhumaine. Je suis la peur au confinement de leurs nerfs et me larve avec torpeur aux quatre coins de leur enfer. Je suis tout ce qui haïssent, ils en ont décidé ainsi. Le jour qui m'a amené ici a amorcé mon sursis. Nous n'ont jamais plu inscrit en lettres capitales, sans drapeau, sans couleur, sans base gouvernementale, pour des nations bâties à l'usure de nos sandales, et qui se garderont bien de soulever tout scandale. Pour nous l'espoir lentement c'est tari par escale, entre charter, expulsion, univers carcéral. N'être à jamais la bête noire de ces chacals est mon ambition première. Je considère que c'est normal, le passage d'une frontière, le néant d'une carrière. Des drones, des gravières, des dettes en surenchère. Le passage d'une frontière, le néant d'une carrière. Des drones, des gravières, des dettes en surenchère. J'ai claqué la porte, il y a de ça fort longtemps. On ne croit plus à la paix, mais un violent réajustement. Et je brûle, me consume en quatre temps. Une ceinture à la taille, prête à faire feu sur vos jambes. Pour des générations acquises par nettoyage mental, à qui je souhaite un examen de conscience radical. Si ce sol je coule encore, c'est pour que mes pas y restent imprimés. Après ma mort, tu es né poussière, tu retourneras poussière. Les vautours chaque jour dévoreront tes viscères. Tu verras que rien ne sert d'espérer en vain, que la résignation pour toi est le plus court des chemins. Sur la brèche insolente et la branche qu'ils ont scié, c'est tiens le rêve jamais brisé d'un à un. Les voir tomber, des racines asséchées de nos précieux oliviers, au pied des cubes de béton et des jardins aseptisés. On prend part à la réécriture du scénar quand les lumières s'éteignent, quand à nous s'offre le soir. Les murs se taisent, nos morts sursaignent, mais réel est le cauchemar. Il ne s'agit que de temps pour que tous comprennent l'histoire. Du passage des frontières, du néant des carrières. Des drones, des gravières, des dettes en surenchère. Le passage d'une frontière, le néant d'une carrière. Par-dessus, pas être autre chose qu'hier. Des drones, des gravières, des dettes en surenchère. Une brèche pour une guerre à ciel ouvert.
La glace, il y a nous, nos parcours chaotiques et des asiles de fous. Des mauvaises graines semées aux grandes dames de leurs écoles qui nous promettent sans vergogne un avenir décapité. Poisson, gaille charcutable,
taillables et malléables. Et des flics alcooliques qui attendent que de se mettre à table. Des bâtards de cobayes, voilà ce qu'on a fait de notre sort. T'étonnes pas qu'on s'en aille ailleurs écrire le carnet de bord. Acharnement judiciaire, contrôle musclé. Croire qu'on cherche à plaire serait la thèse la plus erronée. Au milieu de ça rien, on observe de près, de loin. Les années qui s'écoulent à cogiter comme des chiens. Les techniques sont variées, certains ont la fibre de boucher. Et d'autres opèrent en chirurgien confirmé. Il s'agirait de terrorisme et de sabotage. D'intégrisme, d'extrémisme et de brigandage. T'inquiète, ils ont trouvé le moyen de te faire taire. À coup de recommandés ou de spots publicitaires. Quelques âmes charitables dans le milieu de la police ne parviendront pas à faire peser le balancier hors du vice. Alors, tu veux que je te réponde quoi? Qu'accomplir son sale boulot relève encore du bon droit. Ferme-la, pas de théorie bien pensante. Je commence à comprendre les règles de ce jeu quand ils sont partie intégrante. Quand la justice dresse ses plus hauts bûchers, que la chasse aux sorcières est ouverte et déclarée. À force de faire peur, ils contrôlent ce qu'ils veulent. Et dans leur collimateur, il leur reste nos sales gueules. Quand la justice dresse ses plus hauts bûchers, que la chasse aux sorcières est ouverte et déclarée. À force de faire peur, ils contrôlent ce qu'ils veulent. Et dans leur collimateur, il leur reste nos sales gueules. L'extérieur est hostile, même entretenu par de valeureux paysagistes qui plantent des fleurs par-dessus. Pouvoir de ce pays tient sur une grosse machine à laver. Les Émiratiens savent bien comme ces tortionnaires retraités. On tient à la baguette, un peuple heureux de travail. 4 générations de permis, sans naturalisation. Des propagandes en liesse, couleur va fenaissesse. Non de cesse de confirmer, nous dire depuis tant d'années. Me parle de cohérence, s'il s'agit de marcher droit ou de faire allégeance à des couloirs bien trop étroits. Chez d'où je viens, où je vais, c'est suffisant pour moi. Et j'ai de leçons à recevoir de personnes, dis-toi bien ça. La guerre est froide, voire de basse intensité. Qui souhaite éprouver le contraire, prépare ses arguments. Vu la pègre et les requins qui scrutent sur les bas-côtés. Pas de raison pour nous de se comporter aimablement. Ils en prennent un pour l'exemple. Une centaine de filles derrière la dissuasion. Tient la rampe de l'autre côté de la barrière. C'est au pied du mur pour qu'on ait les vrais gueux. Pour le reste c'est l'état que je mesurais le contenu du disque dur. Laisse derrière toi ceux qu'on décide de traîner pas dans des guerres intestines entre Contando et Cuba. On n'a plus le temps pour ce genre de choses. Et pour les bâtons dans les roues, tu sais ce qu'on propose. Quand la justice dresse ses plus hauts bûchers, que la chasse aux sorcières est ouverte et déclarée. À force de faire peur, ils contrôlent ce qu'ils veulent. Et dans leur collimateur, il leur reste nos sales gueules. Quand la justice dresse ses plus hauts bûchers, que la chasse aux sorcières est ouverte et déclarée. À force de faire peur, ils contrôlent ce qu'ils veulent. Et dans leur collimateur, il leur reste nos sales gueules.
Go to war. I'm the type of bitch that'll bring it to your door. I'ma get that bitch. I'ma get that bitch. I'ma read, I'ma read, I'ma read. I'ma read that bitch. I'ma beat that bitch. You don't want none, bitch. You don't know who I am, bitch. I don't know who you are, bitch. But I'ma read, I'ma read, I'ma read. I'ma read that bitch. Cause I don't like that hoe. I don't know that hoe. Don't fuck with me, hoe. Yeah, ho.
School's in, I'ma read that bitch. I'ma write a dissertation to excuse my shit. When I act out online and I spit and I kick and I rip and I dip and I yard trick. What bitch, you don't like my shit? What bitch wanna fight me? Trick in the back of the classroom, said he talking shit. Better shut your ass up before I reach you real quick. I'ma reach that bitch. I'ma teach that bitch. I'ma give that bitch some knowledge. I'ma take that bitch to college. I'ma reach that bitch. I'ma teach that bitch. I'ma take that bitch to college. I'ma give that bitch some knowledge. I'ma read, I'ma read, I'ma read. I'ma read, I'ma read, I'ma read. I'ma read that bitch. I'm that bitch.
Class time, I'ma read that bitch. I'ma make an outline to the point you'll get. I'ma tell the whole school you a stupid bitch. Watch how fast we read that bitch. Watch my mouth, did you see that shit? I called you a slut, what you gonna do, bitch? I'ma read that bitch. I'ma read that bitch. I'ma take that bitch to college. I'ma give that bitch some knowledge. I'ma read that bitch. I'ma read that bitch. I'ma read, I'ma read, I'ma read. I'ma read, I'ma read, I'ma read. I'ma read that bitch. I'm that bitch. I'm that bitch. I'm that bitch. It's gonna be cohesive. It's gonna be my thesis. I'ma read that bitch. I'm that bitch. I'ma read, I'ma read, I'ma read. I'ma read, I'ma read, I'ma read. I'ma read that bitch. I'm that bitch.
I'ma take that bitch to college. I'ma give that bitch some knowledge. Understand that your bitch top novice. Just clap your hands, let me get my dollars. Smell the trees and the breeze and the breeze. I'ma wait, I'ma wait, I'ma wait. I'ma dance, I'ma kick. In fact, your man's gonna meet me. Little G, little G, little G. I'ma hand you a free CD. Take a chance if you see me beat. Click like a danger, you reap defeat. Bet you bleed, bet you bleed, bet you bleed. Nigga wait, nigga wait, nigga wait. Not a reason to be sneaky. Whip up your plan, but you shake.
First period, don't give a fuck.
Second period, don't get cut.
Lunchtime, feed that bitch.
Like a slaughterhouse, I'll bleed that bitch. Class president, I'ma lead that bitch. Take him outside, I don't need that bitch.
School's out, bell starts ringing. Better watch out, cause I'm gonna start swinging. School's out, bell starts ringing. Better watch out, cause I'm gonna start swinging. What?
I'ma chop that bitch. I'ma slice that bitch. I'ma dice that bitch. I'ma ice that bitch. I don't like that bitch. I'ma fight that bitch. I don't like that bitch. I'ma read, I'ma read, I'ma read. I'ma read, I'ma read, I'ma read. I'ma read, I'ma read, I'ma read.
Fuck this track. Voice is back. I'ma fuck this track. She fucks me back. You don't see my ones.
I'ma read that bitch. I'ma read that bitch. I'ma read that bitch. I'ma read, I'ma read, I'ma read. 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 I don't like that bitch. Proofread that bitch. Proofread that bitch. Proofread that bitch. Zebra fucking cats and Gina Red Fox. A zebra fucking cats and Gina Red Fox.
I'ma voice is back. No fuck this track. I'ma fuck me back. Gonna fuck this track. Voice is back.
Yeah, ho.
Fuck this track.
Gonna be, gonna be, gonna be, gonna be,
gonna
be.
Fuck this track. Voice is back.
Yeah, ho.
Fuck this track. Just fuck me back. Gonna fuck this track. Voice is back.
Yeah, ho.
Fuck this track. Just fuck me back.
Read, read, read.